Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère donc sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Logosphère, nous recevons Tiphaine Garnier. Bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Tiphaine Garnier, vous êtes écrivaine en poésie, vous avez publié dans différentes revues. Vous avez aussi publié différents ouvrages, notamment Massacre et Configure, qui sont édités aux éditions L'Hurlure, des éditions qui sont situées à Caen. Vous avez aussi publié deux ouvrages avec vos compères Bruno Ferne et Christian Prigent, qui s'intitulent Traduction et Page Rosse. C'est bien ça. Et par ailleurs, eh bien, vous êtes animatrice avec Bruno Ferne de la revue TXT, fondée en 69 par Christian Prigent et Jean-Luc Steinmet, revue qui est reparue en 2018 et une revue dans laquelle justement vous faites partie et que vous animez, une revue historique dans le champ de la poésie contemporaine. On va avoir l'occasion d'en discuter durant cette émission, mais vous venez pour nous présenter ce programme Les Oraux, que nous avons le plaisir de diffuser chaque lundi et vendredi à 21h, un programme sonore créé, bidouillé, bricolé par Jean-Christophe Ozanne. Les Oraux, qui est une invitation d'un programme sonore qui invite les auteurs et autrices de la revue TXT. Est-ce que tout simplement vous pourriez nous présenter Les Oraux, ce programme sonore que l'on aura l'occasion d'écouter donc chaque lundi et vendredi à 21h sur les ondes d'univers. Voilà, la
Merci.
Présentation est faite. Est-ce que vous pourriez nous
Merci
parler
pour
des Oraux
pour cette présentation et puis pour votre invitation Les Oraux sur vos ondes. Donc c'est un projet qu'on a lancé, comme vous l'avez dit, avec l'émission sonore Cosmorama, enfin Jean-Christophe Ozanne, qui est à l'origine de cette émission, est venu un peu nous chercher un jour, Bruno Ferne et moi qui animons la revue TXT, et nous a proposé de réfléchir à une série radiophonique dont la matière serait la poésie contemporaine. Mmh. Alors il est venu nous trouver parce que, d'une part, on le connaissait, on l'avait publié dans la revue TXT, et puis, il s'intéresse au type d'écriture que nous aimons, que nous publions dans la revue. Mmh. Et donc, on a mis en œuvre ce projet Les Oraux, donc, qui est une série de 36 émissions. Mmh. L'idée était de proposer aussi un projet au long cours, donc 36 émissions brèves de 15 minutes chacune, qui chacune invite un auteur. Donc comme vous l'avez dit, ce sont pour la plupart des auteurs qu'on a publiés dans la revue ou qu'on a l'intention de publier aussi, comme Charles Plenkin par exemple. Et donc chaque émission est consacrée à un auteur qui est invité à lire lui-même ses propres textes, et ensuite sa lecture est transformée par une personne qui réalise le montage sonore de manière totalement libre, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à des recommandations ou des souhaits de l'auteur, mais crée vraiment un objet avec ses propres esthétiques. Et le résultat, donc, ce sont des objets sonores originaux qui mêlent donc poésie, enfin lecture de textes poétiques et différents éléments sonores, donc de la musique, des bruitages, voilà, etc.
On va juste écouter un tout petit extrait, notamment oui. Eh bien, le générique de cette émission Les Oraux, que l'on retrouvera donc les lundis et vendredis à 21h à la radio.
La radio. Écriture. Les oraux.
Des voix.
Chaque semaine.
D'autres voix.
Tiffaine.
D'autres chemins.
Garnier.
Les oraux, tout au bout.
Les oraux. Des bruits, des notes. Avancer. L'imprévu. Aujourd'hui. Passer les bornes.
Passer les bornes, déborder.
Explorer, exploser.
Resplendir.
Chaque matin. Ouvrir le monde. Inventer notre langue. Quelques phrases. Autrement. La tienne, la mienne.
Voilà, c'était le générique, un des génériques, hein, parce que...
Oui, il y a des variations.
Des variations aussi dans le générique. Ouais. Une originalité, justement, aussi de l'émission, c'est d'avoir différents génériques proposés par Jean-Christophe Ozanne. Voilà, vous nous disiez un petit peu comment la genèse, mm-hmm. comment ça s'est... quelle était la résonance avec cette volonté, justement, de proposer quelque chose d'oral de la revue, lui donner une autre dimension ?
Alors, exactement. Dans la revue TXT, de fait, il y a beaucoup de... Enfin, pour la plupart des écrivains que nous publions, la dimension orale sonore est importante. Et donc, c'était assez logique de les solliciter, ceux-là en priorité, voilà, pour nous proposer de performer leurs propres textes. Et puis, donc le cadre de cette émission, c'était pour nous une manière d'explorer un peu un autre format. Mmh. Puisque la revue TXT, c'est une revue papier, assez épaisse, plus de 200 pages, un numéro par an. Et là, on voulait justement prendre un peu le contre-pied, mais d'avoir des rendez-vous très réguliers, très courts, percutants. Voilà, c'était sortir du format.
Sortir du format. Et aussi, dans ces émissions, il y a aussi l'idée de comprendre la manière dont se forme un texte.
Alors, ça, c'était une idée dès le départ, je crois. On voulait que chaque séance comporte... Enfin, et sa propre notice, si on veut parler un peu trivialement, mais que chaque séquence, comprenne des éléments de compréhension de la démarche de l'auteur qu'on entend. Donc pour ça, chaque auteur invité était invité à répondre à trois questions. Comment est apparu ce texte? Pourquoi ou contre quoi écrivez-vous? Et la troisième question que je préfère, c'est: avez-vous déjà essayé d'arrêter d'écrire? Et donc la plupart des auteurs se sont prêtés au jeu, ont enregistré leurs réponses, qui sont intégralement ou non reprises à l'intérieur des séquences. Ça, c'était important parce qu'on a conscience que les objets sonores et poétiques qui sont proposés sont parfois un peu déconcertants pour l'auditeur, peuvent dérouter, et donc c'était important d'inclure cette dimension-là d'explication, tout simplement, par l'auteur lui-même.
Est-ce que vous pourriez nous parler donc de la revue TXT, l'esprit qui anime la revue TXT depuis sa fondation? C'est une revue qui a marqué et qui marque le champ de la poésie contemporaine par sa singularité. Quelle est l'idée justement de TXT depuis sa fondation?
Alors, une des raisons de la fondation TXT, je crois, c'était de s'opposer à des formes esthétisantes de poésie, ou formatées de poésie. Voilà, l'idée que il n'y a pas vocabulaire poétique, des thèmes poétiques, des formes poétiques, mais que, au contraire, la poésie, c'est le travail sur la langue, donc de prendre vraiment la langue comme objet, comme matière, et de travailler cette langue dans toutes ses dimensions. Donc sonore, puisque c'est le sujet, mais aussi visuel, sémantique évidemment, rythmique, voilà, et également dans toutes ces extensions, aussi bien géographiques, donc différents états de la langue, travailler les étymologies, les racines, que dans ces diverses variations géographiques. Donc ça peut inclure des mots de patois, par exemple. Voilà.
Donc il y a l'idée de prendre à contre-pied l'image qu'on peut se faire de la poésie, quelque chose de très noble, pour retrouver un langage vivant, truculent,
c'est le bon
humoristique,
mot.
Oui. C'est ça
exactement, c'est pour ça que TXT a souvent revendiqué la notion de carnavalesque, et qui, je crois, nous définit encore aujourd'hui assez bien. On a aussi souvent parlé, pour nous le reprocher parfois, de l'esprit potache, de gag, de... Voilà. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, donc, c'est de cultiver cet esprit-là en tant qu'esprit critique. Cette dimension critique-là, qui était fondamentale dans le TXT historique, perdure dans le nouveau TXT, donc la revue a en quelque sorte ressuscité en 2018 et à l'initiative des anciens membres de la revue. Et ensuite, ils nous ont, à Bruno Ferne et moi-même, passé la main pour continuer l'aventure. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, qu'aujourd'hui, cette volonté de critique, donc à la fois des formes de poésie convenues, mais plus largement des discours médiatiques, politiques, enfin, toutes formes de discours préformatés. Voilà, cet esprit-là perdure, pas forcément sous forme de prise de position théorique, mais à travers les textes eux-mêmes que l'on sélectionne, et à travers, voilà, je voulais dire un mot, des pages qu'on appelle les pages collectives, où là se retrouve vraiment l'esprit carnavalesque et potache de la revue. Donc ces pages sont formées de petits textes écrits souvent à plusieurs mains, ils sont pas signés, et dans un esprit, voilà, souvent de dérision, d'humour potache.
Eh bien, on va écouter un extrait des oraux avec Dominique Hélène, voilà, qu'on écoute tout de suite.
D'emblée, c'est le verbe, et le verbe est près de l'éternel, et le verbe est l'éternel. Des verbes de cette trempe, le bled et le bécherel n'en présentent d'exemple. Terre, mer, névée et terre céleste, l'éternel les crée et crée d'eux-mêmes le mec censé le refléter. Et c'est l'entrée en scène d'Ève, belle pépée, svelte, fesses légères, jante femme et bête de sexe, et l'enjette, près de cet éphèbre empesé, né grec, fesses fermes, le gendre de l'éjectée mère d'Ève. Ces pères et mères engendrés de tes célestes gestes et pensées représentent l'espèce. Ève est femelle, d'essence terrestre, elle est censément, et je le regrette, écervelée, mégère, exempte d'entendement et de pensées sensées. Le pervers serpent entreprend de l'héberner et de les perdre, se dépense en entrejambes, tend des perches, jette des scènes vers ses bonnets, les encercle, les prend enserrés et présente le dessert. Ève est tentée, ferrée, elle cède, le prend et le teste. Le mec pressant, ils ont l'air de bon, le péché est né. Ce geste représente le terme de l'Éden, cet éternel été. Et les lèse et déclenche enfer et géhenne, et le temps des revers et des échecs et de se prendre les vestes, temps de dèche et de gêne, de stress, de spleen et de détresse et d'être cerné de ténèbres. Espérer sans dépêtrer, c'est rêver. Entre-temps, Ève, très embêtée, se repent de ce geste. N'empêche, l'Éden, ce très sélect hébergement de rêve, est refermé, les clés et les dés jetés en même temps, défense express d'entrée. Le très élevé les rejette, les défenestre, mais les scellé et émet cette sévère sentence, l'enfermement éternel en externe.
Voilà, Dominique Kellen, donc dans les oraux que vous pourrez écouter donc sur les ondes d'Univers 99.9 les lundis et vendredis à 21h, nous recevons Tiphaine Garnier, donc qui est à l'origine des oraux, ou du moins qui coordonne et anime ce projet sonore qui est une déclinaison aussi de la revue TXT dont on parlait à l'instant. Dominique Kellen, qui est invité, notamment un des auteurs invités. Est-ce que vous pourriez nous parler justement des contributeurs et contributrices de cette revue, des personnes que l'on va pouvoir retrouver dans les oraux?
Alors, donc je le disais tout à l'heure, la plupart des auteurs qui sont invités à participer aux oraux sont des auteurs que nous avons publiés ou que nous allons publier, comme Dominique Kellen par exemple, dans le prochain numéro de la revue TXT, mais c'est pas une règle absolue. Ça se trouve comme ça parce que nous, c'est notre réseau d'auteurs aussi, ce sont voilà, ce type d'écriture qu'on a envie de porter et de faire connaître. Mais voilà, on peut aussi inviter d'autres auteurs qui n'ont pas forcément participé à la revue. Voilà, juste pour petite précision. Alors, dans les oraux, donc le programme comprend 36 émissions, on va retrouver une vingtaine d'auteurs, puisque chacun, en fait, peut proposer entre une et trois émissions de 15 minutes. C'est pour ça qu'on n'a pas 36 auteurs, mais plutôt 20. Donc, on retrouvera, par exemple, le Rennais Émilien Chéneau, qui a participé à TXT et que nous allons republier, d'ailleurs, très prochainement. On peut entendre également plusieurs fois des auteurs comme Philippe Labeaune, lui qui est un auteur plutôt de entre théâtre et poésie, un auteur comme Adrien Lafille, dont les premiers textes ont paru dans TXT, et lui qui a écrit vraiment des textes originaux pour le projet Les Oraux. Et puis on retrouvera des auteurs peut-être plus connus comme Christian Prigent, Jean-Pierre Verheghen, lui qui ne lit pas ses propres textes, mais dont le texte est lu par le comédien Jacques Bonafé. Et puis on retrouvera également Charles Penquin, là, qui a proposé lui plusieurs séquences.
Eh bien, la transition est toute faite. On va écouter Charles Penquin tout de suite.
Une écriture frontale, un chant chaotant qui se réalise, une danse entre les textes face à des gens. Jésus tourne dans une ville. C'est une ville du bord de mer. Il ne connaît pas cette ville. Il va finir par la connaître à force de tourner. Il tourne dans la ville en marchant. C'est en marchant qu'on connaît mieux les endroits, pense Jésus. C'est en marchant qu'on finit par savoir où on se trouve. Mais pour l'instant, il faut se perdre. Il faut savoir s'égarer, dit Jésus. Il faut s'égarer dans toutes sortes de villes. Et comme ça, on finit par les connaître. On finit par les connaître en marchant. Jésus veut tourner dans la ville en marchant. Il tourne Et à force de tourner, il finira par connaître toute la ville. Il finira par la connaître à force de se perdre dans marchant. En marchant, c'est comme ça qu'on finit par connaître. Parce que c'est les pieds qui marchent, c'est les pieds qui connaissent. C'est les pieds qui ont un avis sur la question de marcher et sur la question de la connaissance. La connaissance passe par les pieds. La connaissance est là. Et la pensée aussi. La pensée se fait avec mes pieds, dit Jésus. Il faut que je marche. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer, de tenir le pas gagné. Parce qu'il faut que je fasse de la marche dans cette ville. C'est une ville du bord de mer et je ne connais pas cette ville. Je vais prendre n'importe quelle rue, une petite rue ou une grande rue. Parfois, il y a des rues qui sont petites mais qui sont encombrées. Il y a plein de marchands dedans, plein de gens qui sont dans la ville et qui vendent des choses et qui s'assoient. Alors Jésus doit les éviter, il doit éviter tous les gens qui sont assis pour pouvoir marcher, parce que lui ce n'est pas un assis, c'est un bougeant. Mais bougeant Jésus, il veut tout le temps bouger, il a la bougeotte, alors il faut marcher, il faut continuer la marche tant que c'est possible. Son docteur lui a dit qu'il fallait qu'il fasse de la marche, alors il ne s'est pas fait prier Jésus, il ne s'est pas fait prier, il a fait de la marche dans toutes sortes de villes, et là c'est une ville du bord de mer, il ne connaît pas toutes les rues, il sait que d'habitude il y a plein de gens, mais parfois c'est vide aussi, il y a le vide total, le vide dans les rues, les petites rues, les grandes rues, les avenues, toutes sortes de rues, les voyettes, les ruelles, voilà ce qu'il va prendre Jésus, il va marcher dedans, il va connaître tout ce qui se passe en lui-même déjà, parce qu'en lui-même, il ne sait pas ce qui se passe, il va l'apprendre par ses pieds, ce qui se passe par sa tête, par les ruelles, par tout ce qu'il va entendre, par tout ce qui va se parler, tout ce qui va se faire, par les gestes, c'est les gestes et la connaissance de l'autre, la connaissance de tout ce qui se dit, de tout ce qui se parle, de tout ce qui s'agite dans la ville. Il va finir par la connaître, il finira par savoir tout de cette ville. Il va marcher, continuer de marcher, s'essouffler jusqu'à se perdre. Il va se perdre dans la ville, il va aller partout, il va aller...
Donc Charles Penquin qu'on pourra retrouver donc dans les oraux. Nous sommes toujours avec Tiphaine Garnier de la revue TXT qui nous parle et qui nous présente les oraux que l'on pourra réécouter et écouter bien sûr les lundis et vendredis à 21h sur les ondes d'univers. Une question, comment se bricolent les oraux? Il y a évidemment l'écriture des textes respectifs, mais ensuite, comment cela fonctionne tout?
Alors,
ça
en fait, on voulait aussi que ce soit simple pour les auteurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de contraintes techniques. Les auteurs s'enregistrent avec un téléphone, sur leur ordinateur, ou idéalement avec un micro Zoom, mais pas obligatoirement. Et ensuite, ils nous transmettent leurs fichiers. Et donc là, s'en empare toute une équipe, en fait 5-6 personnes qui réalisent le montage. Et je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais de manière totalement indépendante des auteurs. Ils ne se connaissent pas, ils s'emparent des textes qu'ils choisissent, hein, parmi tous les textes reçus, donc c'est aussi une question d'affinité, et sur ces textes réalisent le montage. Au point de départ du projet aussi, c'était que le montage sonore n'était pas un simple emballage pour valoriser le texte poétique, mais c'était vraiment une création à part entière. Donc en fait, dans l'objet final, la personne qui monte est autant créateur, créatrice, que l'auteur qui a fourni les textes. Voilà, c'était vraiment l'idée d'une co-création. D'une liberté aussi des deux côtés.
Donc un travail de... Voilà, de bricolage aussi.
Oui, alors sur la technique du son, là, je pourrais pas vraiment vous en parler puisque c'est surtout Jean-Christophe Ozanne donc, qui est le maître en la matière. Mmh. Et puis ses comparses aussi, les autres personnes qui réalisent vraiment le montage technique à partir de matériaux divers.
De matériaux divers et variés. Une question pour revenir à la revue TXT. Est-ce que vous pourriez nous parler de la maison d'édition aussi qui héberge voilà, cette revue. On parlait de l'Hurlure, qui est une maison d'édition située à Caen. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous présenter ?
Bien sûr. Donc la revue TXT, elle a ressuscité en 2018. Au départ, on a été publié donc par les éditions Nous, et puis à partir du numéro 34 de la revue, elle a été reprise par les éditions L'Hurlure. C'était une assez logique puisque les éditions L'Hurlure ne publient de revues que TXT, mais nos choix éditoriaux sont proches aussi bien des choix, des orientations de cet éditeur.
Alors juste, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'esprit L'Hurlure ?
Alors, L'Hurlure publie beaucoup de textes poétiques qui peuvent être d'esprit, d'esthétique assez différente, mais c'est dans cet esprit de défendre la pluralité des voix poétiques. Il reste quand même une exigence qu'on partage aussi à TXT, c'est le travail de la langue. Voilà, donc ça définit quand même une certaine orientation des choix.
Alors, travail de la langue, justement, est-ce que vous pourriez développer, qu'est-ce que cela signifie, le travail de la langue? C'est bricoler la langue, c'est oui. Déjouer la belle langue, la subvertir, voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer?
Oui, c'est le principe de départ, c'est ne pas se contenter, se satisfaire du langage qu'on utilise au quotidien, qu'on nous impose aussi, par les médias, par tous les discours qui nous entourent. Au départ du projet des oraux, on se souvenait d'une formule de Francis Ponge qui est qu'il est nécessaire de parler contre les paroles. Et parler contre les paroles, c'est bien dit, c'est utiliser la langue contre la langue. Donc faire un usage particulier de la langue contre l'usage quotidien, formaté, comme je disais tout à l'heure. Et donc ce travail-là, il va passer donc par un bricolage, des manipulations à différents niveaux. Ça peut être au niveau de la syntaxe ou du mot lui-même. C'est un travail aussi du rythme. Donc nous, la poésie qu'on défend, c'est une poésie qui ne va pas se contenter de découper la phrase selon la syntaxe pour la mettre en colonne et faire et fabriquer des vers de cette manière. C'est une autre idée aussi de la contrainte du vers, quand il y en a. C'est pas non plus une condition sine qua non de la poésie. Mais,
Et vous en parlez aussi de formes très diverses, d'une Gwertz par exemple.
Ah oui. Parfois on s'empare de traditions poétiques anciennes aussi, mm-hmm. Pour les revisiter, les accommoder à notre sauce. Moi j'aime bien faire ça.
Un matin, une dame au bas du lit, une mini boule de poils sans gui, nos lentes avec bout d'eau scolée. Merci ma toux m'a rapoplé les moches ténères qu'on m'a conté. entre le casse-croûte et la ventrée, en quantité pour concocter cette petite guerre entrelardée.
Guerres garnies.
L'idée du texte que j'ai appelé Guerres garnies, elle a surgi par hasard. Et on peut dire qu'elle est née d'un sentiment de malaise qu'il fallait essayer de comprendre. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a des nœuds, il y a même parfois des paquets de nœuds. Et l'écriture s'attaque à ces nœuds. Pas forcément pour les dénouer, mais pour les convertir en autre chose.
Voilà, Tiphaine Garnier dans une Guerts. Une Guerts un peu pastichée, là, pour le coup. C'est bien ça?
Oui, oui, mais qui reprend quand même les contraintes prosodiques. Il y a des rimes, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, pas vraiment dans le langage, dans le niveau de langue des Guerts.
Que l'on pourra retrouver aussi, hein, je le répète, dans cette émission des oraux, les lundis et vendredis à 21h sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Quelle est la suite des événements en matière des oraux et de la revue textée? Est-ce que vous pourriez nous parler de la revue en tant que telle, de ses prochaines sorties et puis de la vie des oraux?
Alors, la vie des oraux, donc pour l'instant, c'est la diffusion est en cours, c'est la première année. Donc, pour les radios qui ont commencé à diffuser tout début en octobre 22, ça s'arrêtera au mois de juin, donc, au bout des 36 semaines. Et ensuite, pour l'instant, on réfléchit à une forme à donner, une forme d'archivage d'abord de ce qui a été créé. Donc voilà, peut-être un site internet, un CD. Librement écoutable, on y réfléchit. Quant à la revue, là on termine le prochain numéro, donc qui paraîtra tout début juillet prochain, et qui consacre un dossier important à l'écrivain allemand Arno Schmidt. Donc là, avec beaucoup de contributions critiques, mais aussi de création autour de cet auteur qui, pour nous, est un des maîtres.
Merci, Tiphaine Garnier, d'être venue
de votre invitation.
Nous présenter donc ce programme sonore Les Oraux que l'on pourra retrouver donc chaque lundi et vendredi à 21h. Voilà.
Merci beaucoup. À vous.